Allez, le mot de la semaine, c'est deal. Et les Iraniens auraient dû écrire The Art of the Deal, pas Donald Trump. Les premiers éléments du deal sont des concessions majeures pour l'Iran, avec pour seule réelle contrepartie pour l'instant une hypothétique ou véritable réouverture du détroit d'Ormuz. Alors tout ça pour ça, Jean-Marc Daniel?
Oui, c'est assez surprenant. Vous savez, concernant ce genre d'événement, je reviendrai à un commentaire qui avait été fait ici même, d'ailleurs, par François Villeroy de Gallois, à l'époque où il était gouverneur de la Banque de France. Et il disait, écoutez, sur le fond, dans le détail, tout ça, je pense qu'il me manque deux éléments pour porter un jugement décisif. Le premier, c'est que je suis pas spécialiste des problèmes militaires, donc je sais pas très bien pourquoi, ce qui se passe en ce moment. Donc c'était, et la deuxième chose, c'est que je ne suis pas psychiatre. Alors il avait pas dit psychiatre, mais il avait dit il psychologue, mais moi je pense que le mot alors que c'est psychiatre, concernant l'analyse de la politique américaine. Et je crois que ce jugement, donc, en utilisant le mot psychiatre plutôt que psychologue, est assez pertinent. Je ne comprends pas très bien quelle est la stratégie des Américains, le seul coup...
Pas des Américains.
Enfin, du président du des président. États-Unis. Et la conséquence de ça, c'est qu'effectivement, au sein même de l'administration Trump, il y a des soubresauts.
Bien sûr.
Dans son parti, il y a des gens qui commencent à dire, mais écoutez, on va où? Et la seule réponse, alors là aussi c'est anecdotique, mais cette semaine, non seulement il a fait un deal avec les Iraniens, mais il s'est attaqué à Newsom, l'ancien gouverneur de Californie, qui est un potentiel candidat du Parti démocrate aux prochaines élections. Et donc, on a une vision d'un personnage qui, quand même, est assez dans l'immédiateté, dans l'incapacité à analyser le moyen et long terme, et qui s'est engagé dans une aventure dont il ne mesurait pas véritablement ni les tenants, ni les aboutissants. Alors, arriver à, comme résultat, de rétablir la circulation dans le détroit d'Ormuz, alors qu'elle est
était déjà là,
avant qu'il ne s'en mêle.
Libérer des fonds pour financer le régime.
Oui, et annoncer qu'on va lever les sanctions. Il y a quand même une chose, c'est que l'Iran, dans tout ça, qui clame sa victoire, a montré trois faiblesses. La première faiblesse, c'est que ses dirigeants sont identifiés, susceptibles d'être assassinés à tout instant par...
Les dirigeants qui restent.
Oui, les dirigeants qui restent sont sous la menace permanente de ce que veulent les... potentiellement les Israéliens. La deuxième chose, c'est que le prix du pétrole ne s'est pas envolé, et donc en particulier la reconstruction de l'Iran n'est pas garantie sur la base du prix du pétrole. Et la troisième considération, je ne sais pas comment les Israéliens vivent ça, mais ils peuvent espérer quand même être, sinon débarrassés, du moins contenir le Hezbollah et le Hamas dans les années qui viennent. Donc pour eux, c'est pas forcément aussi négatif qu'on le dit.
Oui, en tout cas, c'est pas ce qu'ils disent. Eux, moi, je me suis complètement planté là-dessus, parce qu'en fait, j'ai été assez juste sur la première partie du raisonnement est totalement faux, Wilfried, sur la suite. C'est-à-dire, au début, je me suis dit, la guerre ne durera pas longtemps parce que il voudra la finir rapidement pour des problèmes de pouvoir d'achat, c'est-à-dire la hausse du prix du pétrole et les taux d'intérêt. Là-dessus, je ne me suis pas planté. Mais à aucun moment, je pensais qu'il se retrouverait en position de faiblesse dans une négociation, Wilfried.
Tout le paradoxe, c'est que lui-même avait dit au moment de la conclusion du précédent traité par Barack Obama, il avait eu cette phrase, c'est lui-même qui a eu cette phrase, les Iraniens n'ont jamais gagné une guerre, mais n'ont jamais perdu une négociation. C'est Trump lui-même qui avait dit ça. Et donc, on le voit de façon très claire. Ce qui est certain, c'est qu'il a mal mesuré la pression économique et donc politique qui s'exerçait sur l'Amérique et sur ses électeurs via l'étranglement progressif du détroit d'Ormuz.
Mais comment c'est possible? C'est-à-dire que, enfin, je veux dire, moi je suis pas spécialiste, comme dit Jean-Marc Daniel, il l'est pas, mais moi encore moins. Mm. Enfin, j'ai l'impression qu'un gosse de 5 ans aurait pu dire, de toute façon, leur moyen de rétorsion, ça va être ça. Enfin,
pas forcément, parce que jusqu'à présent, y compris dans les périodes de très très forte tension dans le Golfe, jamais l'Iran n'avait clairement menacé de fermer les détroits d'Ormuz. Mmh. C'était considéré comme un tabou. Mmh. Parce que, en particulier, leur soutien numéro un, qui est les Chinois, et certains alliés dans le Golfe, auraient véritablement beaucoup souffert. Il faut pas oublier, ce qui a été le cas, mais il faut pas oublier, par exemple, que le Qatar a dû subir un blocus. Mmh. Parce qu'ils supportaient l'Iran. Et donc, tout le monde disait, non, ils n'iront pas jusque-là. Mmh. Donc là-dessus, je ne jetterai quand même pas complètement la pierre. Okay. Mais néanmoins, ce qu'on a vu, c'est que la pression politique était extrêmement importante et que on avait deux éléments, à part les midterms dont tout le monde parle, mais qui étaient très importants pour Donald Trump. D'abord, la Coupe du Monde de football, où il a quand même obtenu, je le rappelle, à la fin, de soulever le trophée. Mmh. Avec les gagnants, et donc il voulait pas apparaître comme étant toujours un président en guerre, Et ce qui va arriver la semaine prochaine, le 4 juillet, l'anniversaire des 250 ans des États-Unis, là aussi, il voulait être capable de faire là aussi son mission accomplie.
On savait qu'il y avait des échéances. Sur ça, le raisonnement était bon.
Exactement. Et la pression du temps et de l'argent a été trop forte.
Wilfried, ce que je trouve intéressant, c'est la situation du Qatar. Parce que Wilfried a dit que le Qatar supportait l'Iran. En français, on dit soutenait et supporter, c'est en anglais. Et donc, en fait, le Qatar supporte au sens français du terme, c'est-à-dire subit les conséquences de ce que fait l'Iran, alors qu'il était au départ le soutien de l'Iran. C'est-à-dire la capacité de l'Iran à se brouiller avec tout un tas de gens en disant, finalement, nous n'en avons rien à faire. Finalement, on va effectivement bombarder les gens qui nous soutiennent, on va bombarder les gens autour de nous. Avec le Pakistan, ils étaient à deux doigts de se mettre en guerre, et donc les Pakistanais ont essayé de jouer la diplomatie. Donc il y a une espèce de détermination chez les Iraniens que personne n'a évalué. Je pense que tout le monde pensait qu'ils allaient tout de suite dire, bon, on arrête, on veut sauver les meubles, on arrête tout de suite. Pas du tout. Ils se sont mis dans une situation de véritablement résistance.
Oui, mais ça, c'est la question des guerres asymétriques. En fait, les Américains ont oublié les guerres asymétriques. C'est ce qui s'est passé au Vietnam. Des gens qui sont prêts à perdre 3 millions de morts pour 30 000 morts américains, ça c'est la guerre du Vietnam. Finalement, en Iran, on a la même chose. Et ce qui est étonnant, c'est que c'est en même temps que se déroule la guerre d'Ukraine qui démontre justement qu'un pays qui se bat sur son propre terrain peut gagner une guerre asymétrique. La deuxième chose que je trouve étonnante du deal, c'est les 300 milliards censés être investis en Iran, en fait, qui sont des indemnités de guerre. Et quelque chose me dit que Trump va se tourner vers ses copains du Golfe et leur dire
« Bonne chance.
Mes amis, vous m'avez déjà acheté pour 500 millions de dollars la moitié de ma société de crypto. Maintenant, vous allez cracher au patinet 300 milliards. »
Je pense que les Émirats, ça va être compliqué. Oui.
Les Émirats arabes unis, ils vont pas être très chauds avec ce qu'ils ont pris.
Ouais, tout ça est assez étonnant.
Ils vont pas retrouver le mot de passe.
Non, la question, à mon avis, la question que ça va poser derrière, c'est quelle est la conséquence sur la croissance économique.
C'est la question suivante.
Et voilà.
C'est le prochain sujet. Vous voulez faire la transition? Elle va présenter l'émission quoi, pour la prochaine saison. Ça y est.